À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'association INIS, Italie, Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois à 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition.
Chansons et gastronomie.
Bonsoir, bonsoir Serge, bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Alors, nouvelle émission, on va parler un peu de politique, de mouvement politico-économique pour débuter cette émission. Alors, le 14 novembre, il y a eu de gros mouvements, de grosses manifestations en Italie dans différents endroits, Gênes, Bologne, Venise, etc., Rome aussi, et manifestations et puis des grèves, notamment dans les collectivités, chez les fonctionnaires, et puis dans les transports. Alors, pourquoi tous ces mouvements? Alors, pour les fonctionnaires, c'était surtout contre le gel des salaires. Et puis, la plupart de ces manifestations visaient le terme « Job Act » employé par Matteo Renzi, le président du Conseil. C'est d'ailleurs pas que contre le terme, c'est dans ce qu'il contient. Enfin, le projet qui est contenu, les particularités du projet, disons. Et puis, ce mouvement sera suivi d'un autre mouvement, d'une grève importante générale, celle-là du 5 décembre. Alors, peut-être qu'il faudrait qu'on définisse ce qu'est ce Job Act. Parce qu'on en parle, mais on ne sait pas trop de quoi il en retourne si on ne se plonge pas dedans. Alors, comme d'habitude, c'est un projet assez touffu, mais il y a quand même de grandes lignes qui provoquent des réactions épidermiques dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs. Alors, les premiers qui ont employé le terme de Jobs Act, c'était les Américains. En fait, c'était consécutivement au scandale financier qu'il y avait eu il y a quelques années avec Enron, tout ça. Mmh. Et le gouvernement américain, dans les années 2000, donc, il avait pris des dispositions pour encadrer la comptabilité des sociétés qui étaient cotées en bourse, pour pas qu'il y ait des désastres comme il y avait eu à l'époque. Et en 2012, donc, les USA sont dotés d'une loi pour assurer la régulation portant sur le financement des startups, c'est-à-dire des entreprises qui démarraient, et des petites entreprises, le but étant de promouvoir l'emploi et la création de petites affaires dites dynamiques. Alors, il n'y a pas de lien direct entre les deux, mais c'est un peu ce que souhaite faire Matteo Renzi, c'est-à-dire qu'il y a en Italie comme ailleurs en Europe beaucoup de chômage, et il y a aussi beaucoup de chômage, beaucoup de chômage des jeunes. Alors là, sur les chiffres, je pense qu'il faut être un petit peu méfiant parce qu'on nous annonce des chiffres en pourcentage souvent. Mais pourcentage de quoi? Quelle tranche d'âge? On entend un pourcentage de 40%, le lendemain on attend 30%, alors on ne sait plus bien. C'est très variable. Et par exemple, on entend que le chômage des jeunes est de 40, un peu plus de 40% en Italie, qu'il est de 25 à 30% en France, 25% je crois, 25, 20% en Grande-Bretagne, en Espagne je ne sais plus combien, mais très 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 élevé. Et puis quand on se penche un petit peu, on voit, et encore une fois sans savoir de quelle tranche d'âge il s'agit, on voit qu'en fait en Italie, on dit qu'il y aurait 678 000 jeunes au chômage et en France 662 000. Bon, ce qui veut dire que c'est quasi identique. Alors certes, la population n'est pas tout à fait la même. Et il y en aurait 900 000 en Grande-Bretagne. Donc là, on y perd un peu son latin. Mais en tous les cas, c'est beaucoup trop élevé, quoi qu'il en soit. Et ça devient assez dramatique. Alors, le projet de Matteo Renzi est de dire, il a plusieurs axes. Il veut tout d'abord, c'est un petit peu ce qui fait hurler, il veut une modification de l'article 18 en Italie.
Il doit concerner les contrats de travail.
Voilà, qui est... Enfin, Il n'y a rien de mentionné spécifiquement sur l'article 18, mais on sent qu'ils veulent le modifier. Alors l'article 18, c'est l'article 18 du Code du travail, c'est ce qui protège les ouvriers sur leur emploi et la pérennité de leur emploi quand ils sont dans l'entreprise, pour faire court, hein, parce que comme tout article, c'est bien plus complexe que ça, mais c'est quand même l'idée principale. Alors ce qu'ils voudraient en fait, c'est faire des incitations fiscales pour les entreprises qui embauche à durée indéterminée, parce qu'il dit qu'il y en a marre des contrats précaires à durée déterminée, afin donc de limiter tous ces contrats temporaires. Alors qu'est-ce qu'il propose ? Il propose ça d'accompagner tout ça avec ce qu'il considère un avantage pour l'entreprise et un avantage pour l'employé. Il appelle ça une protection croissante, c'est-à-dire que pendant les 3 premières années, l'employé, l'ouvrier pourrait être licencié, donc les 3 premières années.
Une sorte de période d'essai de 3 ans.
Ça devient une période probatoire en fait, hein, une période d'essai de 3 ans. Et qu'après, par contre, si l'entreprise le licencie, elle paye des pénalités jugées très importantes qui devraient la décourager à licencier.
Alors, donc il risque de licencier avant.
Voilà, alors l'entreprise, évidemment, peut licencier avant. Bon, après, il y a quand même des garde-fous, hein, mais là, encore une fois, je schématise. Mais alors, il y aurait quand même un avantage, enfin, prétendu avantage pour les salariés, c'est qu'il y aurait l'introduction d'un salaire minimum garanti dans les secteurs qui ne sont pas protégés par la convention collective. Le salaire minimum à la française n'existe pas, c'est comme en Allemagne, il n'existait pas, ils sont en train d'inventer un petit peu quelque chose. Donc ce serait un progrès à ce niveau-là. Alors évidemment, l'aile gauche du PD, donc du parti de Matteo Renzi, qui est, allez, on va dire, une sorte de parti socialiste à la française, parti démocrate, quoi, hein, démocrate socialiste, sociodémocrate, cherchait le terme, mais la partie à l'aile gauche, les sortes de frondeurs italiens sont évidemment contre. Et les autres disent, bon, il faudra bien régler ce problème d'emploi. Le patronat, là, lui... Alors le patronat s'exprime, mais ce qui s'exprime beaucoup, c'est le centre droit qui lui dit « Ah non, il faut abroger complètement l'article 18 ». C'est-à-dire qu'ils en demandent plus.
Mais c'est un peu comme en France. C'est ce qu'on connaît ici.
C'est-à-dire que personne n'est jamais content, puisque chacun demande plus que l'autre.
Ce qui est assez
révélateur.
Assez récent, quand
même. Qui est récent et révélateur, et puis qui est un petit peu général en Europe. Alors... Donc, il a fait, pour le moment, c'est un état de projet, hein, mais il a quand même fait, le gouvernement donc a demandé la confiance au Sénat d'abord, et puis à la Chambre des députés, ça sera sans doute début décembre. Et au Sénat, sur ce projet donc de réformer le marché du travail en profondeur, hein, quand même, il a eu, malgré une opposition, encore une fois, de l'aile gauche de son parti qui, oralement, est tout à fait contre, enfin oralement dans les médias et tout, là a quand même un petit peu voté la discipline du parti. Et ce qui fait que le projet a été adopté par 165 voix pour, donc 111 voix contre et 2 abstentions. Et donc c'est un premier feu vert à l'instauration de ce projet, à la mise en œuvre de ce projet. Maintenant, il faut passer, par contre, devant la Chambre des députés. Et comme dit l'autre, c'est pas gagné. Mais en tous les cas, il y a de grosses mouvements de protestation en disant que c'est antisocial, etc. Et d'autres disant que ça va pas assez loin, etc. etc. Et en première ligne, évidemment, les plus assidus à combattre ce projet, ce sont la TGIL, qui est l'équivalent de la CGT, qui, elle, appelle donc à la grève générale le 5 décembre. La TGIL, qui, entre parenthèses, revendique 5 millions d'inscrits quand même.
Ce qui
5 millions d'adhérents, ça fait rêver. Enfin, si j'ose dire, en France, ça surprend, hein, 5 millions d'adhérents pour un syndicat. Ça fait sans doute rêver donc les syndicats français. Et par contre, dans les adhérents de la TGIL, il y a beaucoup, beaucoup de retraités.
Oui,
ce qui n'est pas étonnant.
Il y a peut-être adhérents et adhérents.
Ce qui n'est pas étonnant parce que la TGL a eu des moments de gloire dans le monde ouvrier notamment. Et pour le moment, elle est la seule à appeler à cette grève générale du mois de décembre, du 5 décembre, vendredi 5 décembre. Mais ils ont lancé un appel à leurs deux autres syndicats forts, on va dire, en Italie, la CISL et l'UIL, qui correspondent à notre CFDT et, on va dire, un semblant de force ouvrière pour l'UIL. Voilà. Alors, avec pour but principal la colère donc contre le Job Act et puis le projet du budget qu'ils estiment pas du tout adapté, etc. etc. là aussi, avec en fond, disons qu'on reproche à Renzi de faire plaisir à Merkel, alors que souvent il dit la combattre. Ça aussi, on l'a entendu quelque part. Enfin, il a reçu les félicitations de Mme Merkel et puis même de Monsieur Barroso, ce qui là non plus n'est pas très étonnant. Alors, Renzi, voilà pour ses soucis. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, il est très médiatisé, très médiatique, Renzi. Il a le verbe haut. Il n'est pas très facilement impressionnable non plus. Et par provocation, bien sûr, il dit aux syndicats, le gouvernement gouverne, les syndicats s'occupent du social. Et je ne me laisserai pas gouverner la rue. Enfin, ça aussi, on l'entend
partout.
Partout, hein, puisqu'il y a des gros mouvements en Allemagne en ce moment. Il y en a en France, il y en a en Belgique. Je ne sais pas ce que ça va donner. Suivons. Mais c'est vrai qu'à un moment, on se demande qui va proposer quoi, qui va faire sinon l'unanimité, mais quelque chose qui peut nous sauver de la crise actuelle, et puis quelque chose qui se tient surtout.
Je ne pense pas qu'il faille employer le mot crise.
Non, moi non plus, mais je sais que c'est un mot qui est employé.
Voilà, alors, moi, ça me mérisse à chaque fois. C'est pas une crise, c'est un changement d'état.
Absolument, parce que le mot crise est employé.
Une crise cardiaque, c'est immédiat, c'est bref. Et, voilà.
Et il est tellement employé que tout y est rattaché, ce qui fait qu'il y a une morosité générale ambiante qui est particulière.
La crise, on la connaît depuis 1973, donc ça fait 40 ans, donc c'est plus une crise.
Et elle devient aussi une sorte d'excuse pour ne pas faire de choses.
Exactement.
Non, mais il y a un changement sans doute de société qui est évident. Il y a un modèle qui n'a pas réussi, un autre qui est en train d'échouer. Mmh. Et où est la vérité?
Le capitalisme n'échoue pas pour tout le monde, pour le moment. Les actionnaires...
N'importe quel projet de société n'échoue jamais pour tout,
tout le monde. C'est vrai.
Voilà, alors sinon, M. Renzi, comme tous les premiers ministres ou présidents du Conseil, se balade un petit peu de partout. Et il était au G20, il était en Roumanie, et puis il est allé en Australie. Alors en Australie, il est allé dans une école et il a rencontré des enfants australiens d'origine italienne. Et qui sont bilingues. Alors, pas bilingues dans la famille, parce que dans la famille, ils parlent anglais. Mais leurs parents parlent sans doute aux grands-parents des dialectes. Mais ils étudient quand même l'italien et ils parlent visiblement bien la langue. Et il en a profité, l'ami Renzi là-bas, pour dire qu'il tenait à ce que la langue italienne se développe. Bon, on les connaît pour sa culture, mais il soulignait aussi pour l'économie. Et il a promis de faire quelque chose sur la langue italienne dans le monde et d'essayer de la développer ou de la redévelopper.
On peut commencer par ouvrir le centre culturel italien à Grenoble.
Mais on va peut-être lui écrire. Hein, voilà. On va peut-être lui écrire. Voilà. Alors, on va peut-être faire une première pause. Si notre technicien préféré de Couleur FM...
Le technicien de Couleur FM.
97.1 est d'accord. Alors, je vais vous faire écouter un groupe qui, puisque M. Renzi est en Toscane, un groupe qui vient de Toscane, qui s'appelle Musica Nuda, qui est composé de Ferruccio Spinetti à la contrebasse et de Petra Magoni à la voix. Alors ce groupe, qui a une dizaine d'années d'existence, mais avant ils avaient des parcours séparés, lui étant dans un groupe jazz, on va dire, ils sont souvent programmés dans des soirs au jazz, c'est comme ça que je viens de les voir d'ailleurs à Grignan, mais ils sont inclassables en fait. Alors ils ont pris le parti de faire des concerts à deux, juste une contrebasse et une voix. Et Petra Magoni a une voix exceptionnelle, fait absolument ce qu'elle veut de sa voix. Soit elle, un instrument, elle en s'en sert comme instrument, soit vocalement. Alors, ils ont beaucoup pris de standards français, anglais, italiens, qu'ils ont remis à leur sauce. Et puis, ils font aussi des créations. Mais là, c'est une chanson italienne qu'ils ont réadaptée, que je vais vous faire écouter. C'est Mamma mia dammi 100 lire, qui est une chanson d'immigration. Alors, le thème, c'est la jeune fille qui veut partir en Amérique et qui demande à sa maman, donc c'est ancien, hein, de lui donner 100 lire pour prendre le bateau et puis aller voir ailleurs ce qui peut se passer. Et les bateaux partaient.
Que dit la maman ?
Et la maman ne voulait pas, évidemment. Le frère, à son balcon, on disait qu'il faut laisser faire sa sœur, et puis, le bateau part, elle part avec, et le bateau coule, et on dit que ses beaux cheveux ont été souillés par la mer, etc. Mais le texte fait référence à des bateaux qui coulent, et les bateaux d'émigration, voilà, on en parle beaucoup maintenant, alors c'était pas dans les mêmes contextes, c'est des bateaux officiels qui partaient, mais il y a eu plusieurs bateaux qui ont coulé, dont le Sirio, parce qu'ils étaient beaucoup trop chargés. Et il y avait des débats avec les compagnies d'assurance qui après ne reconnaissaient jamais le nombre exact de personnes qui étaient dessus, ce qui fait qu'il était très difficile de savoir combien il y avait de personnes, enfin tout au moins dans l'immédiat, combien de personnes s'étaient noyées, mais c'était quelque chose de malheureusement qui arrivait. Quoi. Voilà, alors Mamma mia dammi 100 lire par Petra Magoni et Ferruccio Spinetti, le nom du groupe Musica Nuda.
Mamma mia, dammi 100 lire, che in America voglio andare. Mamma mia, dammi 100 lire, che
Voilà, la chanson se termine en disant que c'est les mots de la maman qui
sont la vérité.
Absolument. Les applaudissements que vous entendez, c'est en fait un enregistrement donc public à Tirana, en Albanie. On va changer de région maintenant avec Serge qui a fait une petite escapade napolitaine.
Napolitaine, enfin le but était d'aller à Pompéi. Alors je connais assez bien l'Italie du Nord, c'était la première fois que j'allais dans l'Italie du Sud. Et on est resté 4 jours là-bas, donc un jour à Pompéi, un jour à Herculanum. Donc ce n'est pas un compte-rendu de visite au sens géographique et ethnologique du terme que je vais faire, mais c'est plutôt le sentiment, le ressenti que j'en ai eu. Et je trouve Naples une ville très, très attachante et qui, par endroits, est sale. Le problème des ordures n'est toujours pas résolu. Et on avait un hôtel du côté de la gare que j'avais choisi sur Internet. Et plus on avançait de la gare à l'hôtel, on y allait à pied, plus c'était sale. Mais alors des papiers sous les ponts, des odeurs d'urine, mais alors quelque chose d'effroyable. Bon, après, quand on est allé dans d'autres endroits de la ville, c'est pas du tout comme ça, quoi. Mais c'était la première image. On était donc deux couples. Un s'est fait voler son porte-monnaie, mais quasiment, on va dire, à la décharge du voleur. Le porte-monnaie était dans une poche de pantalon style treillis, poche carrée devant. Autant mettre une flèche, quoi. Mais donc, une image d'Épinal un peu qui ressort. Et alors, moi, je croyais que les petites ruelles avec le linge aux fenêtres, c'était du folklore des années 50, mais pas du tout. Ça existe.
Alors, est-ce qu'ils les interdisent comme à Béziers ?
Ah non, ça, je ne sais pas si c'est interdit, mais ça existe.
Non, ils les interdisent pas. C'est...
je pense pas.
C'est de l'humour. Hein.
Et vraiment, c'est... comment dire, un peu la carte postale. Alors il y a un usage, je vais dire, pondéré mais continuel du klaxon, surtout sur les Vespa, mais, alors c'est peut-être pas très objectif ce que je vais dire, j'ai rien trouvé d'agressif dans le klaxon, c'est juste gentiment pour prévenir qu'on arrive un peu vite, c'est tout. Mm-hmm. Mais c'est...
très habile, hein.
Très, oui.
Ils sont très habiles.
Oui. Puis alors des cinquantaines, j'ai compté 50, Vespa dans un parking, dans une rue, quoi. Les pizzas sont très bonnes, moitié prix qu'en France. Alors je sais pas comment ils gagnent leur vie, ou il y en a, ils la gagnent peut-être trop. Moitié prix qu'en France, un peu même moins cher que dans l'Italie du Nord. Nous sommes allés visiter un dimanche matin, on est allé faire un tour au marché de gros chinois. Donc c'est tenu par des Chinois. Et un marché de gros concernant les vêtements et les chaussures. Et donc il y a les commerçants italiens qui vont s'approvisionner, qui viennent avec leur Ducato, Doblo, Dobbio. Et puis, ils achètent donc les vêtements pour le vendre, qui, beaucoup, ont une étiquette « Made in Italy », qui ne pose aucun problème à personne. Alors, je ne suis pas allé au musée archéologique, ce sera pour la prochaine fois. Hein. Et par contre, je suis allé au musée d'art moderne, et je crois que là, il y a deux décisions à prendre, enfin, l'une ou l'autre, c'est soit revoir tout, ou bien alors le fermer, parce que ça ne vaut pas un copec, quoi. Alors, le centre d'intérêt était plutôt Pompéi et Herculanum, et je suis allé avec mes images d'Épinal. Le mot cendre, par exemple, Pompéi sous la cendre. Bon, c'est vrai qu'au début, il y a eu des cendres, mais surtout des pouzzolanes et puis des cailloux. Mais que maintenant, mais quand ça a commencé à être fouillé, c'est-à-dire en 1800, je crois, quelque chose comme ça, c'était solidifié. C'est-à-dire qu'on y va dans le calcaire, quoi.
Bien sûr.
Dans le calcaire, dans la pierre. Et actuellement, par endroit, il y a encore 4 à 6 mètres, non pas de cendres, mais de roches dures, quoi. Donc, moi, j'y suis allé sans avoir rien lu sur Pompéi. Il y a un quart à peu près qui n'est tant à Herculanum qu'à Pompéi qui n'est pas fouillé. Et certaines fouilles se font non pas en déblayant la pierre qui est au-dessus des bâtiments, mais se font à l'horizontale, c'est-à-dire que on pense qu'il y a un bâtiment, ou peut-être par caméra thermique on s'en aperçoit, et on creuse un tunnel, en gros d'un mètre cinquante de haut, horizontalement, pour aller à l'endroit que l'on veut fouiller. Donc bien sûr, ces tunnels ne sont pas ouverts au public. Alors Pompéi, c'était une ville qui a eu un premier tremblement de terre un premier petit tremblement de terre en 62 après Jésus-Christ, et l'éruption du Vésuve était en 79. Donc en réalité, le premier coup, là, 62 après Jésus-Christ, c'était une sorte de signe avant-coureur, quoi. Mais à l'époque, il n'y avait pas trop de matériel. Donc Pompéi, c'était une ville de 30 000 habitants. Il y avait deux théâtres, un petit, un grand, un amphithéâtre et un cirque de 20 000 places, qui fait en gros comme nos terrains de football, quoi, hein, actuellement. Et alors, j'ai découvert, dans la ville de Pompéi, il y avait 89, mettons une petite centaine, on va dire, de McDo. C'est-à-dire que l'habitude était, le midi, de manger à l'extérieur. Donc, il y en avait qui étaient plus importants. Et on a un petit comptoir où il y a encore des trous. Dessous, il y avait de la braise. Et puis, on mettait les gamelles à chauffer. Et donc, l'habitude était de ne pas manger chez soi le midi. Il y a une quinzaine d'années, a été ouvert au public le Lupanar. Mmh. Donc c'est un bâtiment qui dispose d'une enseigne, qui a cinq petites chambres au rez-de-chaussée, autant à l'étage, et des lits en pierre. Alors, bon, il y avait peut-être quelque chose sur le lit. Hein.
Ils viennent récemment d'y trouver... un jeune Italien avec deux demoiselles, sans doute pour faire une étude historique du lieu, et en tenue relativement légère,
qui se sont laissés
enfermer la nuit dans ce Lupanar, encore une fois pour voir le côté historique de la chose.
Et donc les prostituées étaient généralement des esclaves grecques ou orientales. Quelque chose qui m'a bien plu, c'était le forum. Mm. Et alors, c'était un forum piétonnier. Alors, c'est curieux, ces parallèles qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a deux grandes avenues qui arrivent au forum. Mm. Et puis, c'est barré, quoi. Il y a un monticule, il y a une pierre qui est plus haute que les autres. Donc, les chars ne peuvent pas passer, quoi. C'est impossible. Et sur le forum, il y a toujours le temple d'Apollon, qui lui est de 550 avant Jésus-Christ. Le forum donc était piétonnier et interdit aux chars, et avait donc tout autour tous les bâtiments administratifs. Et c'est assez curieux ce parallèle qu'on voit en redécouvrant les rues piétonnes. Le forum à Pompéi était piétonnier. Les maisons n'ouvraient que sur les cours intérieures, donc il n'y avait pas de fenêtres sur la rue, ce qui fait que quand on visite certains endroits, on est le long des murs, quoi. On se demande pourquoi, et en discutant un peu, on a pu se faire ouvrir à titre privé une maison par un employé, là, et... vous a expliqué un certain nombre de choses. Donc le Lupanar, lui aussi, avait les fenêtres qui donnaient sur la cour intérieure et ne donnaient pas sur la rue. Et alors, il y a à côté de Pompéi, enfin à côté, à 600 mètres à peu près de l'enceinte principale, une maison qu'on appelle Maison des Mystères. C'est une résidence secondaire dans la campagne de bourgeois, de citadins. Et il y a de belles fresques avec beaucoup de couleurs rouges dans cette maison, et qui représentent l'initiation d'une jeune fille au mariage. Et alors, c'est très très bien conservé, mais on parle de Pompéi, mais il est sûr que les cendres de l'époque ne sont pas tombées que sur Pompéi, elles sont tombées sur toute la région. Donc dans la région de Pompéi, il y a encore quantité d'endroits qui ne sont pas fouillés, où il y a de ces maisons. Donc tout ce qui est mobilier a été soustrait de la ville de Pompéi pour être mis au musée,
Naples,
au musée archéologique de Naples, que je visiterai la prochaine fois. Parce que là, j'étais trop fatigué. Donc c'est une ville, comme j'ai dit, très, très attachante. Et c'est vrai que, bon, par commodité, moi, je connais plutôt le nord de l'Italie, mais il faudrait y retourner, quoi.
Ah, puis il y a la baie de Naples, il y a toute la côte amalfitaine.
On était allé à Sorrento aussi,
oui,
là.
Aussi,
Et on a Sorrento, qui est le pays, en plus du citron, mais de la marqueterie. Et il y avait un marketeur en retraite qui faisait ça dans une association. Donc on a vu comment il faisait. C'était assez intéressant.
Très bien. Ben, on va écouter
une chanson napolitaine.
On va écouter deux exemples de la musique qu'on peut faire à Naples, parce que c'est un creuset de la musique, Naples. C'est un berceau, puisque effectivement la chanson dite napolitaine s'exportait beaucoup. Hein, le napolitain était une langue d'exportation, hein, par la chanson. Donc on va écouter un groupe qui s'appelle Neapolis. Neapolis, qui est effectivement
c'est le nom ancien de Naples. Hein.
Tout à fait. Neapolis Ensemble, donc, qui fait un travail d'exploration sur le répertoire traditionnel napolitain. Donc, ils font de la musique dite traditionnelle, mais à thème. Là, on va entendre Conto e Masaniello. Alors, qui est Masaniello? Masaniello, qui s'appelait en fait Tommaso Agnello, était un révolutionnaire napolitain qui était né en 1620. Et en juillet 1647, place du marché, Masaniello avait organisé une révolte contre les pavillons d'octroi. Alors, nombre des palais de la noblesse ont été incendiés et le vice-roi a été contraint de quitter la ville. Et Masaniello avait organisé la prise du palais royal et il avait fait ouvrir les prisons. Les registres d'impôts ont été détruits, une nouvelle constitution a été promulguée. Masaniello, après plusieurs tentatives de corruption de la part de la Cour d'Espagne, a été nommé par le vice-roi lui-même capitaine du peuple napolitain. Alors un tout petit peu plus tard, Masaniello est arrêté à la suite de la trahison de certains de ses compagnons et il a été décapité le 16 juillet 1647. Et autour de son cercueil, il a eu des funérailles somptueuses avec une foule énorme autour de son cercueil. Voilà, alors c'est ce personnage, Masaniello, que chante le groupe Neapolis.
Piscador, non la ringrescio, Masaniello sa magno nu vescio, Masaniello sa magno nu vescio.
Bene subito vigere, chi sto vescio aspetta a me, tutta a me e niente a te, posi ad assa vo papà, chi sto vescio do buon pignà. Allo tiempo della madora, Masaniello nu piscador.
Allo tiempo la tribo l'ambizzo, Masaniello sa vesta spugnita. Masaniello sa vesta scugnizza, nu scugnizza stracciata e fodenda, Masaniello sa magna e sa menta, Masaniello sa magna e sa menta.
Bene subito vigere, sta sa menta e spetta a me, tutta a me e niente a te, qua sa menta tu d'angrassa e ta mette nata d'assa.
Allo tiempo la trigo l'ambizza, Masaniello sa vesta scugnizza.
Allo
tiempo la mi turbia, sta fuyenda, Masaniello sa vesta fuyenda. Senza rezzo e senza più barca, fanno buda maron nell'arco, fanno buda maron nell'arco.
Bene o breve Dio vincere, sta maronna aspetta a me, tutta a me e niente a te, che stia da sbobata terna, o vai subba dall'inferno.
Allo tiempo da me turbiendo, Masaniello sa vesta fuyenda. Allo tiempo Masaniello sa vesta liono, nu liono con l'olio che riendo, te na fame tutte pozzendo, te na fame tutte pozzendo.
Diceremo vedo cista.
artista, son covaccia camorrista, io mi son capatanzista, e quando si riema saniella, fai marenna sarà chiella.
Allo tiempo la disperazione, ma saniella sa vesta liona.
Allo tiempo la primavera, ma saniella sa vesta bandera, ma saniella sa vesta bandera.
Attenzione, battaglione, si è sparato un cannone, asciuto pazza un padrone, ha già lasciato pane, ma non sai chi è di mane.
Allo tiempo la primavera, ma saliendo sa questa bandera.
Allo tiempo era tradimento, ma saliendo vesto un argento, ma saliendo vesto un argento.
Rice subito vincere, si neguala io e te, pazziamo con cosette, si risponde a chi stimita, da già cosa era nato vestita.
Allo tiempo era tradimento, ma saniello veste un'argento.
Allo tiempo era lì tra lazzo, ma saniello vestuto era avanzo, ma saniello vestuto era avanzo. Quando tre
sto vestita fa paura, ma saniella si spaglia a nura, a maronna non se ne cura, o si agava in terra ce l'assa, a così va all'urda matassa.
Allo tiempo la vita ammazza, ma saniella va super avanza.
Allo tiempo la si capella, ma saniella è pulla Chanel, ma saniella è pulla Chanel.
Sauendo pane e l'uoglia, sagliando appena ad un ruoglia, chi roba la caccia cuoglia, non c'ha pizza mai la bella, chi con mano sti guardatella.
Allo tiempo era sti capello, ma saliella con la Chanel.
Allo tiempo era chi si sconforto, ma saliella è vestuto era morto, ma saliella è vestuto era morto. Rindanicchia una coppa buossa, già la stata una coppola rossa, già
sta coppa la rana voce, quando la fama non è doce, quando la bava la resta in croce, quando la bava su tributa, pura tassa in coppa da muta.
Allo tiempo la che si scomporta, ma saniella è vestuta la morta.
Ma saniella so crena morta.
Voilà, Neapolis avec la voix de Mademoiselle Marone, accompagnée à la guitare par M. Puccini.
Puccini.
Donc, pour continuer sur la musique napolitaine, nos techniciens préférés qui se font dans le matériel, nous a-t-il oui. dit, sur Couleur FM 97.1. Et il va nous mettre là un extrait d'un album de Joe Barbieri qui évolue lui plutôt dans le jazz et qui est lui aussi napolitain, qui compose également. Et là, on va donc écouter un morceau de sa composition qui s'appelle « Gingembre et cannelle » et qui commence ainsi. « Grains de poivre comme des grains de rosaire sans épines, paprika » qui assèche les promesses d'une vie sans fin, puis vanille pour tes pourquoi et clou de girofle pour moi, pour fixer au mur cette photo farfelue de nous deux, un après-midi qui cuit à feu lent sans attente ni avenir, tes jambes posées sur les miennes témoignent d'une paresse langoureuse, gingembre et cannelle, si cela te convient, pour chercher le bonheur, qui fait son nid comme un refrain, qui fait la la la. Et puis, un peu plus loin, et en conclusion aussi de la chanson, donc c'est toujours des essences qui sont prises comme parallèles. Et enfin, comme les choses qui arrivent sans se prévenir et qui frappent, tu es arrivé pour moi, quasi comme un miracle, comme les roses qui fleurissent en une nuit et qui scintillent, tu es arrivé pour moi, un toujours en un court instant. Voilà Joe Barbieri, donc gingembre et cannelle.
Arcini di pepe come grani di un rosario senza spine. Paprika che asciughi le promesse di una vita senza fine. Poi vaniglia per i tuoi perché e chiotti di garofano per me. Per fermare al muro questa foto strampalata di noi due. Qua c'è fuoco lento un pomeriggio senza attese né avvenire. Le tue gambe arrese sulle mie sanno di un languido poltrire. Zenzero e cannella se ti va per stanare la felicità che si annida come un ritornello che fa la 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 la. Come le cose che arrivano senza avvisare colpiscono. Tu sei arrivata per me sul ciglio di un miracolo. Come le rose fioriscono in una notte scintillano. Tu sei arrivata per me sempre in un attimo. Perle di ginepro come stelle sotto un cielo di vernice. Curcuma e coriandolo a condire i tuoi occhi come olive. Non ci somigliamo neanche un po', eppure che ci lega, non lo so, mescolare bene prima di servire il mondo insieme a te. Come le cose che arrivano, senza avvisare colpiscono, tu sei arrivato.
Voilà un autre exemple donc de musique à Naples, complètement différent.
Complètement différent.
Et bien intéressant. Alors maintenant, je vais vous parler de quelques événements culturels en ce mois de novembre et début décembre dans notre beau Nord-Isère. Alors tout d'abord, à la librairie Majolir, samedi 29 novembre à 14h30, on recommence le cycle des rencontres, collaboration Inis et Majolir, avec donc Jean Guichard qui va intervenir sur Saint-François d'Assise. un rebelle créateur qui a contribué à changer l'histoire. Encore aujourd'hui, de nombreuses œuvres et productions, autres que religieuses et historiques d'ailleurs, font référence à saint François d'Assise ou à François. Peut-être que le pape a pris son nom à partir de François d'Assise. Alors ce sera donc le 29 novembre à 14h30, le samedi, chez Majolaire-Bourgoin, en bas de la rue piétonne. Mais il y aura aussi, hormis cette rencontre, ce sera l'occasion de découvrir la librairie, l'exposition qui a été réalisée par Marcel Vette, qui sera, elle, du 15 au 30 novembre, et qui a illustré la vie et l'œuvre de saint François d'Assise. Ensuite, on va parler maintenant cinéma. Alors, le cinéma hors-piste de Bourgoin-Jallieu vous propose, dès le 19 novembre, qui est sa sortie nationale, Il Capitale Umano de Paolo Virzi, avec Mademoiselle Bruni Tedeschi, la sœur d'une ex-dame, première dame, je crois. Hein. Valeria Golino, Fabrizia Bentivoglio, Luigi Locascio et Fabrizio Giffuni. Alors, près du lac de Côme, en Italie, les familles de la richissime Carla Bernas, qui est de Dino Robelli, qui est agent immobilier au bord de la faillite, sont liées par une même obsession, l'argent. Et un accident à la veille de Noël va brutalement changer leur vie. Alors, en fait, ce film a été présenté à plusieurs festivals, que ce soit celui de Tribeca, il a obtenu le David de Donatello, le Globe d'Or et les Rubans d'Argent. Il a remporté diverses récompenses comme meilleur film et meilleure actrice pour Valeria Bruni Tedeschi. Et l'histoire, donc, qui se passe au lac de Colm, est en fait une transposition. Elle est à partir d'un roman de Stephen Amidon qui s'appelait Capital Human, qui était un roman non pas italien, mais c'est un roman américain. C'est une transposition de ce roman américain et donc des lieux, puisqu'on est passé des États-Unis à l'Italie. Il fallait trouver un lieu qui pouvait rappeler au réalisateur le lieu décrit dans le livre. Et donc pour exprimer ces paysages de la côte est américaine, Paolo Virzi a choisi la Lombardie, dans la région de Brianza. Voilà. C'est donc un film qui va être présenté en version originale et en version française, sorti donc le mercredi 19 novembre. Alors mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21, samedi 22, dimanche 23, lundi 24 et mardi 25, vous pourrez le suivre en version française tous les jours à 14h. Et les mêmes jours, c'est-à-dire 19, 20 jusqu'au mardi 25, vous pourrez le suivre en version italienne sous-titrée. Par contre, aux horaires de 16h45 et 19h30 pour le mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Le dimanche 23, il y a trois séances, 10h30, 16h45 et 19h30. Le lundi 24, deux séances, 16h45, 19h30. Et le mardi 25, 16h45, pour ce qui est donc de la version originale sous-titrée. Et donc le film, je rappelle, Il Capitale Umano, qui a été traduit en français par Les Opportunistes. Par la traduction littérale, vous l'aviez compris. Alors, toujours en cinéma, le cinéma du Don Risère est très actif sur le cinéma italien. Là, on va aller un peu plus loin à Villefontaine, au cinéma Fellini, et qui va présenter quelques films d'auteurs italiens. Et on va commencer donc le 26 novembre et pour aller jusqu'au 2 décembre. Le 26 novembre, ce qui est un mercredi, et le vendredi 28 et le dimanche 30 novembre, à 20h30, vous aurez la projection de Anime Nere, les âmes noires. avec, c'est un film de Francesco Munzi, avec Marco Leonardi, Peppino Mazzotta et Fabrizio Ferracanne, qui raconte la trajectoire de trois frères qui brûlent à accéder à une vie différente de celle qu'ils ont reçue en, en héritage et qui prennent un chemin hors norme. Munzi est un Romain puisqu'il est né à Rome en 1969. Ensuite, vous aurez Come il vento du jeudi 27 novembre au lundi 1er décembre, mais avec des séances en fait le 27 novembre, le dimanche 30 novembre et le lundi 1er décembre, toutes à 20h30. C'est un film de Marco Simone Puccioni avec toujours Valerio Golino qu'on a Vera Bourgoin et donc Avril Fontaine, Filippo Timmi et Francesco Sciana, qui est un film d'un genre qui réussit le tour de France, dit le commentateur, de se démarquer en adoptant un point de vue inédit, celui du directeur de prison. C'est un portrait de femme étonnant, de rigueur et d'âpreté. C'est l'une des premières femmes directrices de prison en Italie, en fait, le thème du film. Voilà, ensuite, on aura Palerme, donc, le samedi 29 novembre à 17h30 et le mardi 2 décembre à 20h30, qui est un film de Emma Dante, avec Emma Dante, Alba Rochwasher, qui avait eu un prix à Cannes, si je me souviens bien, et Elena Cotta. C'est un film qui... le thème, c'est qu'un dimanche d'été, le Scirocco souffle sans relâche sur Palerme, quand Rosa et Clara, en route pour célébrer le mariage d'une amie, se perdent dans la ville et débouchent dans une ruelle étroite, la Via Castellana Bandiera, et au même moment, une autre voiture conduite par Samira, dans laquelle est entassée la famille Calafiore, emprunte la même ruelle dans le sens opposé, et je ne vais bien sûr pas tout vous dévoiler, ce film d'Emma Dante qui se passe à Palerme, et ben, la réalisatrice est née elle-même à Palerme en 1967. Il y aura enfin I nostri ragazzi, nos enfants, qui est un film en avant-première qui sera projeté le samedi 29 novembre à 20h30, et qui est un film d'Ivano De Matteo avec Alessandro Gassman, le fils de l'autre, Giovanna Mezzogiorno et Luigi Locascio. Et ce jour-là, non, puisque le 29 novembre, il y aura le film Palermo et le film I nostri ragazzi, l'un à 17h30 et l'autre à 20h30. Entre les deux, il y aura un buffet italien avec une petite participation financière pour les gens qui sont intéressés par ce buffet et qui permettra, avec la participation du comité de jumelage sans doute, de discuter des deux films, avec aussi les gens du cinéma qui le gèrent, donc je rappelle, le cinéma Le Fellini. Voilà pour les films projetés en Orisaire. On va peut-être s'écouter un petit peu de Branduardi avant la recette que nous donnera Serge. Alors, c'est la pulce d'acqua, tout le monde connaît la pulce d'acqua. J'ai choisi Branduardi parce qu'on parlait d'un film au départ qui avait été tourné en Lombardie. Alors même s'il a fait beaucoup de ses études musicales à Gênes, il est lombard, Branduardi. Puis on avait parlé de Saint-François d'Assise. Il avait mis en musique un texte de Saint-François d'Assise qui s'appelait L'infinamente piccolo, il y a de nombreuses années, mais là on va l'entendre dans un de ses plus grands succès, la pulce d'acqua, qui est en fait inspiré d'un conte indien avec les rapports avec la nature en fait.
Sei malato e la mosca d'autunno che hai schiacciato non ti perdonerà. Sull'acqua dell'uscello forse tu troppo ti sei inchinato, tu chiami la tua ombra ma lei non ritornerà. È la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato e la serpe verde che hai schiacciato non ti perdonerà. E allora devi a lungo cantare per farti perdonare e la la pulce d'acqua che lo sa l'ombra ti renderà. Schiacciato non ti perdonerà, sull'acqua dell'uscello forse tu troppo ti sei inchinato, tu chiami la tua ombra ma lei non ritornerà. È la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato, e la serpe verde che hai schiacciato non ti perdonerà, e allora devi a lungo cantare.
Alors je vais interrompre Angelo Branduardi, il ne faudrait pas, mais enfin on est obligé vu l'heure, pour parler d'une recette de cuisine qui m'est très chère, c'est la recette du ragoût des tagliatelles. Alors c'est une recette, elle m'est très chère, parce que c'est la recette de ma grand-mère, qui était de
Romagne,
et qui était d'un petit village qui s'appelle St. Paul Sparrow, à côté d'Imola. Donc la grand-mère était née à peu près, je pense, vers 1890, donc au début du XXe siècle, elle avait dans les 20 ans. Et elle était placée comme femme de chambre ou cuisinière, dans une famille bourgeoise. Et alors, à l'époque, comme en France d'ailleurs, ça clôturait une période où l'agriculture avait été reprise en main par des bourgeois citadins qui faisaient un placement et qui ont un peu reboosté l'agriculture, en particulier en passant à une agriculture intensive avec des engrais, en sélectionnant les semences, exactement la même chose que dans le bassin parisien. Donc l'Émilie-Romagne, en gros, c'est une province qui est à l'ouest de la Lombardie, qui commence à Piacenza et qui va jusqu'à la mer Adriatique, et qui est composée de deux parties qui sont parfois complémentaires. Il y a la plaine du Pô, enfin en ce moment on pourrait dire que c'est la plaine de l'eau, et les collines, et donc qui sont plus au sud, qui sont de la moyenne montagne, quoi. Et je dis c'est deux parties complémentaires parce que le prosciutto crudo, le jambon de Parme, est produit en plaine et puis autour de Parme, mais est séché bien souvent en montagne. Et puis le parmesan, pareil, est séché en montagne. Absolument. Dans des séchoirs qui appartiennent aux banques. Donc ma grand-mère était plutôt dans la partie plaine. Et avec une autre recette dont on pourra parler un jour, qui est les Pachadin en romagnol, qu'ils appellent les passatelli. Donc là, c'est la recette du ragoût. Alors, je ne vais pas vous donner des quantités, parce que c'est un peu comme on le sent. Je vais surtout vous donner les ingrédients. Alors, il faut des carottes, du céleri, des gésiers de volaille, des foies de volaille, des tomates fraîches ou pelées, ou même de la sauce tomate en concentré. Ma mère le faisait avec de la sauce tomate concentrée. Donc là, c'est pas une espèce de viande hachée qu'on met avec des... Non, on a fait les tagliatelles avant, à la main. On
parle de quelque chose de sérieux, là.
Exactement. C'est assez facile à faire. Avec ces ingrédients, on les coupe sans les mélanger dans des petits cubes. Il faut que ça fasse moins d'un centimètre d'arête, à peu près, 5 à 7 millimètres. Et on fait revenir tout ça dans l'huile. Mais, comme c'est quelque chose de très sérieux, on ne fait pas tout revenir ensemble. On fait chauffer l'huile et on met dans l'ordre de ce qui est le plus long à cuire jusqu'à ce qui est le plus rapide. Donc on commence par mettre les carottes, le céleri, les gésiers. Enfin, on ne les met pas à ce rythme, on attend que l'un ait commencé un peu de cuire avant de mettre l'autre. Les tomates, si elles sont fraîches. Les foies à la fin. Et alors, donc je ne vous ai pas donné de quantité, mais ce ragoût n'est pas une simple sauce, c'est une partie intégrante du plat. Il faut que quand on sert le plat, il faut que ça représente au moins 10 à 15% du poids total, quoi. Et donc, ce ragoût est nettement meilleur que de la viande hachée mal broyée.
Dont on ne sait pas si elle est de cheval ou...
Exactement. Là, on sait que c'est des gésiers et des foies de volaille.
Très bien. Mais merci, Serge. Merci à tous les auditeurs de Couleur FM 97.1. Alors, vous pouvez réécouter cette émission tant sur le site de Couleur FM que sur le
celui
site de
Nice.
Et puis, ben, passer un bon mois, début mois de décembre, fin novembre. Et puis, on se retrouvera courant décembre pour la dernière émission de l'année. Voilà, de l'année 2014, on entend. Bonsoir à tous.
Au revoir.
À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'association INIS, Italie, Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois à 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition.
Chansons et gastronomie.